par lui à cet emploi exclusif. Deux fois par semaine, en rentrant de la traite du soir, le samedi et le mercredi, il coupait ses ongles au plus court, attentif, penché, recueilli, comblé par le seul accomplissement du rite. Pour la partie de la pièce qui n'était pas la cuisine, Paul n'aurait pas parlé de salon ou de salle à manger. Ces mots n'allaient pas. Les trois fenêtres de la pièce, alignées, donnaient sur les bâtiments et les terres du Jaladi, cernées de lettres plantureux. Et plus loin, au bord de rien, au-delà de ceux qui pouvaient être embrassés d'un seul regard, sur les plateaux d'estives que l'hiver vidait de leurs troupeaux, au Jaladi, Paul l'avait expliqué dès le premier jour, pointant les toits d'ardoises rassemblés, vivaient Michel, sa femme Isabelle, et Cathy, leur fille de 13 ans, qui allait au collège de Condat. Elle pourrait aider l'Éric, lui montrer, il prendrait le même cas, on se verrait pendant l'été, quand les gros travaux seraient finis, avant la rentrée, pour en parler, mettre ça au point, faire connaissance. Les premiers jours de juillet, très tôt, après le départ de Paul, happé par les tâches, hâtif et ramassé, déjà, pour cette lutte que ce serait, toute la journée, d'accomplir les besognes, les unes après les autres, et ensemble, organiquement enchaînés, le soin des bêtes et des machines, et la fenaison. Ces matins-là, au commencement, Annette, que pétrifiait encore le nœud du métier de Paul dans lequel il était pris, ligoté, serré, tenu, métier dont elle ne savait rien, ni les gestes, ni les odeurs, traces, marques, stigmates, ni les lancinantes fatigues ou tenaces douceurs ou prébendes inattendues. Annette, chaque matin, Éric dormant derrière la cloison dans la chambre du fond, s'était appliquée à se tenir devant ce que Paul appelait la vue. À 9 heures, plusieurs fois, elle avait eu ce mot, la vue, et elle avait attendu, depuis 9 heures, attendu pour savoir ce que ce serait. Devinant, pressentant d'une sorte d'avènement, loin de la façade pâle et du toit de la maison d'en face de l'autre côté de la rue à Bailleul, derrière la haie de thuya sévèrement taillée, elle apprenait, immobile, sans même boire le café refroidi dans le bol à rayures sur la table derrière elle. Elle apprenait la lumière qui réveillait chaque chose, l'une, l'autre ensuite, visitait prise nimbée, les prés, les arbres, la route en ruban bleu, les chemins tapis, les vaches lentes et les tracteurs matutinaux, cahotants, volontiers rouges, elle avait senti, pendant ces journées des premières de cet ardent juillet, qu'elle devait se tenir là, patiente même si elle avait peur, même si elle ne savait rien de ces chemins, ni de ces prés fourrés d'herbes insolentes. Elle ne disait plus chant, on n'avait pas de chant ici. On ne semait pas, on ne semait rien, elle l'expliquait à Éric. La terre était assez riche à cause des volcans qu'il y avait eu pour nourrir toute cette herbe dardée folle. On n'arrosait pas non plus, on n'avait pas besoin, c'était un autre pays. Tant de luxuriance stupéfiait Annette. La terre assez bien que les maïs dressés là-bas dans le nord, en turgescente vigie au bord des routes de l'été, et puis, jadis, dans sa vie d'avant, lui donnait parfois une conscience fugace de l'humaine insignifiance. Annette se tenait debout devant la vue, suivant, comme du doigt, les nervures des ombres couchées en bêtes dociles au flanc des arbres dont elle ne savait pas le nom. Elle ne demanderait pas à Paul, elle n'était pas une écolière, elle n'était pas en voyage d'agrément, ni en séjour chez de lointains cousins. Elle ne donnerait pas dans le tourisme éclairé, elle n'avait pas loué un gîte pour les vacances, n'explorait pas méthodiquement l'exotique contrée, faune, flore et autochtones inclus. Il s'agissait de faire sa vie là, de commencer, de recommencer là. Elle attendrait que Paul dise, l'air de rien, comme en passant, ce qu'il y avait à savoir, sans donner leçon. Le nom du Jaladi lui avait plu, il sentait le conte d'enfance, et sa douceur désuète s'accordait avec ce que Paul racontait de Michel, né au Jaladi, de sa femme Isabelle et de leur fille, de cette famille. Les toits du Jaladi faisaient repère dans cet horizon de vertige, ciel, plateau, bois près, face auquel il faudrait vivre. Tout contre, dès lors que par les trois fenêtres nues, le pays d'ici rentrait dans la pièce de Paul, l'embrassait, la moulait à sa mesure énorme, ne laissant pas de répit, sans Paul, sans Éric, dans les aubes nacrées de juillet. Annette avait résisté aux choses vertes, les avait apprises, en avait cerné les contours, à la seule fin de n'être pas dévorée par des forces anciennes qui, elle le sentait, était trop grande pour elle, pour une femme de 37 ans, venue du Nord, crachée par une petite ville du Nord, et pas spécialement solide, ni équipée caparaçonnée armée. Le jour de la fête sur la place du Bourg, le deuxième dimanche d'août, elle avait rencontré Michel et Isabelle, qui se tenaient au bord de la piste des autos tamponneuses, où ils s'abritaient d'une pluie têtue déversée sur les attractions foraines par un ciel revêche et déjà automnal. Ils avaient d'abord un peu parlé, les quatre, de ces froidures de novembre égarées au plus fort de la belle et brève saison, et aussi d'eux, d'elle, Annette et d'Éric, qui, encapuchonnés de bleu, observaient trois grands gars bruyamment lancés dans un concours de tir à la carabine. On s'était enquis, Isabelle surtout, qui demandait, la tête ployée sur le côté, il s'habituait, la maison était agréable, juillet avait été beau, on trouvait tout ce qu'il fallait la Riom, un peu moins la Conda, mais le collège serait bien pour Éric, il y ferait des copains. C'était familial, on se verrait à la maison, avait dit Isabelle, on mangerait ensemble, un samedi soir, pas le prochain mais le suivant, le 25, avant la fin du mois.